Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Je suis tellement heureuse, j'ai tellement envie de voir ma famille, ma maison, mes frères. Donc j'ai poussé pour venir.
Pour venir et pour rentrer même, vraiment, déjà. Et pourquoi pas? En tout cas, certains Syriens installés en Jordanie depuis le début de la guerre font le voyage retour. Ils sont évidemment très peu nombreux. Qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive là-bas? Le reportage est signé Étienne Monin pour Un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Malawi, en Belgique, en Australie, en Angleterre. Entre autres, 18h50, l'Europe, celle qu'on aime ou qu'on quitte. Pierre Benazet nous racontera, entre autres, à quoi sert l'analyse des eaux usées en Europe. Vous allez voir que c'est assez édifiant. Et puis 18h55, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four et les jeunes étaient vraiment capables de changer la donne sur le climat. Mais avant, c'est au Rwanda que je vous emmène. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Je ne vous apprends rien en vous rappelant d'abord que le génocide rwandais a 25 ans. Les commémorations auront lieu évidemment au début du mois d'avril. Je ne vous apprends rien non plus en rappelant que le rôle de la France pendant cette période a été beaucoup questionné. Soutien au régime Hutu, mais jusqu'à quand? Livraison d'armes, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on savait réellement avant l'opération turquoise? Le rôle de l'armée, celui de François Mitterrand en l'occurrence à l'époque. Il y a des mots même très compliqués, très difficiles qui ont été prononcés, y compris celui de complicité. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir Fabienne.
Benoît de la cellule d'investigation de Radio France. Vous connaissez parfaitement ce sujet-là. Vous allez nous révéler, Benoît, de nouveaux éléments grâce à une enquête que vous signez, que vous partagez d'ailleurs avec Mediapart. Mais après, ce que je viens de rappeler d'abord, au fond, Benoît, 25 ans après, franchement, qu'est-ce qui reste encore à dévoiler? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore?
Alors, il y a plusieurs questions, en fait, qui sont toujours sur la table. Premièrement, avant le génocide, est-ce que la France est allée trop loin dans son soutien au régime rwandais du président Habyarimana? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 90, le régime rwandais est alors en guerre contre les rebelles du Front Patriotique Rwandais, le FPR, en majorité Tutsi, dirigé par Paul Kagame, l'actuel président rwandais. En octobre 90, le président Habyarimana demande de l'aide. La France envoie ses premiers paras et à partir de ce moment-là, il va y avoir une montée en puissance de l'aide militaire française, alors que dans le même temps, une logique génocidaire contre les Tutsis se met également en place. Du coup, la deuxième question, c'est y a-t-il eu un aveuglement par rapport au risque de génocide? Quelle était la connaissance réelle des autorités françaises concernant les extrémistes Hutus dans l'ombre du pouvoir rwandais? Est-ce que des alertes ont été ignorées? Et puis, troisième question, est-ce que la ligne rouge n'a pas été franchie en livrant des armes, directement ou indirectement, aux extrémistes Hutus, y compris pendant le génocide? Et le cas de l'opération turquoise lancée par la France en juin 1994 est assez emblématique. Parce que officiellement, c'est une opération humanitaire, avec la neutralité de la France, entre d'un côté le gouvernement génocidaire en déroute et de l'autre le FPR qui prend le pouvoir. Mais en réalité, c'est une opération qui est beaucoup plus ambiguë. Une opération qui sauve des vies, mais qui protège aussi des génocidaires.
Alors, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, un homme sort du silence. Benoît, c'est un militaire. Vous allez nous le présenter, c'est pas n'importe quel militaire.
Oui, il s'appelle Jean Varret, il a aujourd'hui 84 ans et une longue carrière militaire derrière lui. C'est un officier de cavalerie, il est passé par Saint-Cyr. Il est officier en Algérie. À l'époque, il s'oppose à la torture. Il bascule dans le camp des putschistes contre le général de Gaulle. Alors aujourd'hui, il dit que c'était complètement stupide. Il exerce ensuite des responsabilités en Afrique. Il devient directeur de cabinet du chef d'état-major des armées, puis général détaché auprès du ministère de la Coopération. Et c'est comme ça qu'il arrive au Rwanda.
Donc, qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Alors, il arrive sur place fin 90, et au moment donc où l'armée française commence à soutenir militairement le régime du président Habyarimana, Jean Varret est chef de la mission militaire de coopération. Et dès novembre 90, il prend immédiatement conscience qu'une logique génocidaire se met en place sous ses yeux contre les Tutsis. Écoutez ce que lui dit le chef de la gendarmerie militaire rwandaise lors d'une réunion.
Au cours de cette réunion, il y avait le chef de la gendarmerie, il y avait deux ou trois de ses collaborateurs, et au cours de la réunion, le chef de la gendarmerie me réclame des armes lourdes. Et je lui dis, mais pourquoi? La gendarmerie n'est pas faite pour avoir des mitrailleuses, etc. Et je refuse. Devant mon refus catégorique, le chef de la gendarmerie dit, bon, messieurs, vous pouvez partir, je reste avec le général. Et là, il me dit, on est en tête à tête, on est militaire, on va parler clairement. Je vous demande ces armes car je vais participer avec l'armée à la liquidation du problème. Le problème est très simple, c'est que les Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les liquider. Il me dit ça très clairement.
Et alors, à ce moment-là, Benoît, comment réagit le général Varay?
Mais il est totalement horrifié, il contacte l'ambassadeur de France au Rwanda, il décide d'aller voir directement le président rwandais, Juvénal Habyarimana.
Je vois Habyarimana et je lui exprime mon indignation. Et lui me dit, il vous a dit ça ce con-là? Je vais le vider. Donc Habyarimana est furieux. Furieux, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que son chef de gendarmerie a dévoilé un secret? Est-ce que c'est parce que le chef de gendarmerie a menti? Mais il est furieux. Par contre, je note qu'il n'a pas été vidé tout de suite.
Cette petite phrase lâchée par le chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise, elle vous fait prendre conscience de quoi?
Et c'est là où elle me fait prendre conscience, et ça a mené toutes mes actions après, d'un risque de massacre. Ça me paraissait un risque. Si on continuait à soutenir les yeux fermés le président Habyarimana et l'armée, on risquait ceci.
Le risque de génocide était réel.
Oui.
Alors, c'est pas le tout, parce qu'il n'y a pas que cet épisode, Benoît, qui tracasse le général.
Bah oui, il y a aussi le fait qu'on lui demande de former des gendarmes rwandais, et étant donné ce qui vient de se passer, là encore, il refuse.
Les gendarmes m'ont demandé de former des OPJ, des officiers de police judiciaire. Et là aussi, je n'ai pas voulu. Je sentais bien que la gendarmerie avait pour souci de lutter contre l'ennemi, puisque l'ennemi, c'était le Tutsi. Donc faire des OPJ, ça rentrait dans cette optique que la gendarmerie ne pouvait pas être une gendarmerie à la française, elle devenait une unité combattante comme les autres.
Donc Benoît, on a bien compris, un général très très gêné aux entournures, mais qu'est-ce qui fait de ces informations? À quel moment le politique intervient?
Eh bien, ce que ne comprend pas Jean Varay, c'est qu'immédiatement, il fait remonter ce risque de génocide contre les Tutsis dans la chaîne hiérarchique française, notamment auprès du ministère de la Coopération dont il dépend. Il transmet tout de suite ces informations et vous allez voir ce qui se passe.
Je suis sûr que cette information, je ne l'ai pas gardée pour moi.
Mais quelle réponse vous avez du côté français?
Aucune. C'est-à-dire que mes avertissements, n'ont pas été pris en compte. Je n'ai pas été convoqué pour m'expliquer davantage. J'en déduis que j'ai perdu la confiance de mes chefs en général, politiques ou militaires. J'avais bien compris que, d'une certaine façon, je dérangeais.
Donc, j'ai pas été entendu, j'ai perdu la confiance de mes chefs, c'est important. Ce qui dit pourquoi il dit ça, en fait?
En fait, Jean Varay a le sentiment de ne pas être dans le bon camp, finalement, celui d'un soutien indéfectible au régime Habyarimana. Il va s'en rendre compte un peu plus tard. En avril 94, le général Varay est finalement écarté de ses fonctions après avoir engueulé, ce sont ses propres mots, une unité d'élite française, qui était sous ses ordres. Ses militaires français sont allés jusqu'en Ouganda pour intervenir contre le FPR, ce qui officiellement était totalement interdit. Pour Jean Varay, une limite a été franchie.
J'appelle ça le lobby militaire. C'était une connivence entre certains militaires qui étaient pas majoritaires, mais qui étaient à des postes clés, l'état-major particulier, l'état-major des armées, etc. Et que ce groupe, dont je connaissais certains éléments, ils n'ont pas su s'incliner devant le pouvoir politique. Je dirais même que le pouvoir politique n'a pas su les incliner, leur dire « c'est nous qui commandons ».
Vous dites que les militaires, selon votre analyse, sont allés trop loin?
Je pense. Pas l'institution, mais certains militaires à des postes clés ont été trop loin.
Alors, certains militaires sont allés trop loin de la part d'un général, c'est quand même quelque chose. Expliquez-nous pourquoi il vous parle aujourd'hui, ce monsieur, en fait.
Alors, ce qu'il faut dire et rappeler, c'est que Jean Varay a déjà témoigné devant la mission d'information parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda en 98. Bon, dans un cadre relativement confidentiel, sauf vraiment pour les spécialistes du sujet. Et cette histoire, il ne l'a jamais vraiment digérée jusqu'à présent. Il était toujours resté dans l'ombre. Et puis, à 80 ans, cet alpiniste fait une grave chute en escaladant le Mont Blanc, pronostic vital réservé, il s'en sort pas, miracle. Alors là, il décide d'écrire un livre pour retracer son parcours dans lequel il évoque brièvement, très brièvement, le Rwanda. Et aujourd'hui, s'il parle, c'est parce qu'il veut tirer les leçons de ce qu'il a vécu.
Je n'ai pas su convaincre du risque d'un génocide. Donc maintenant, je voudrais que la France, d'une façon générale l'Occident, sache se prémunir contre ce risque, de façon à ce qu'au XXIe siècle, un génocide soit impossible. L'Occident, et en particulier la France, a une responsabilité dans cette affaire. Je suis celui qui met sur la table ma petite part de vérité et je souhaite que les autres fassent la même chose, civils et militaires.
Alors, le général Varay, justement, n'est pas le seul, Benoît, à sortir du silence aujourd'hui. Il y en a un autre.
Un autre homme, oui, qui parle pour la première fois, il s'appelle Valfroy Dauchy, en juillet 94, alors que le génocide est presque achevé. Il débarque dans la ville de Goma, au Zaïre, pendant l'opération turquoise. Alors il est là en tant que bénévole de la Croix-Rouge, chargé de la logistique. La Croix-Rouge est notamment chargée de la purification de l'eau dans les camps de réfugiés. Alors la situation sanitaire est désastreuse, il y a le choléra qui ravage les camps de réfugiés, il n'y a pas de nourriture, pas d'essence, il y a des armes qui circulent, et il y a notamment dans ces camps pas mal d'extrémistes ou tout impliqués dans le génocide, alors qu'à Kigali, le FPR a pris le pouvoir.
Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce nouveau témoin?
Ce que raconte Valfroy Dauchy, c'est qu'il a assisté à des livraisons d'armes dans des avions militaires français à l'aéroport de Goma, où il se trouve fréquemment. Écoutez la scène assez incroyable à laquelle il assiste.
La première fois, c'était tout début août, donc ça fait une dizaine de jours qu'on est là, et je vois arriver un type habillé un peu en surfeur, un gars qui détonnait un petit peu, blond, l'air un peu détendu, un civil avec une arme, ça c'était bizarre.
Donc cet homme, c'est un Français?
C'est un Français, oui, mais bien sûr c'est un Français assez jeune, il a 23-25 ans, assez bronzé, l'air assez à l'aise, pas du tout déconcerté. Parce que c'est quand même à l'époque la plus grande tragédie humanitaire du moment, quoi. Et le gars arrive là-dedans un peu comme un touriste, bon. Et donc, du coup, ça force un peu la curiosité. Je vois le gars, je lui dis, salut, il fait quoi? Et le mec m'explique qu'il bosse pour la boîte de son père, c'est Aix-en-Provence, qui sont aussi bien parce qu'ils sont à côté d'Istres, qui est une grosse base militaire française, et qui livre des armes. Comme ça, direct. J'ai souvenir d'avoir posé la question, de dire, mais est-ce qu'il pensait que c'était la meilleure idée du monde de livrer des armes en plein milieu d'un génocide? Et le gars me dit, oh, tu sais, c'est un business, si c'était pas moi, ce serait un autre. On nous commande des armes, on livre des armes. Donc on se voit deux ou trois fois, entre début août et mi-septembre, et à chaque fois, le gars arrive tranquille, avec son Glock à la ceinture, pour nous expliquer qu'il livre des armes, évidemment, au pouvoir ou tout. Je lui demande à qui, il dit, c'est pour le gouvernement en exil.
Ouais, des armes pour le gouvernement en exil, c'est-à-dire les extrémistes Hutu qui viennent de commettre le génocide.
Mais alors, attendez, il les a vus, ces armes, ou
alors,
pas?
Il n'a pas vu les armes directement, mais il a vu en quelque sorte leur emballage.
Mmh. Moi, j'ai pas vu les armes, mais j'ai vu les caisses. Je vois les avions et je vois les caisses. Je vois que les avions sont des avions français, des avions militaires français. Et il y a des caisses dans un avion militaire français avec un jeune gars bronzé qui dit « moi, je livre des armes ».
Quel type d'armes, vous ne savez pas?
Je suppose des armes légères. On est sur des caisses de taille moyenne. J'imagine qu'on ne met pas plus gros que des bazookas là-dedans, quoi. Certainement pas. Il n'y a pas d'armement lourd.
Qu'est-ce que vous vous dites à l'époque? Ça vous surprend?
À l'époque, je suis très surpris. Parce que, effectivement, je pense que ça, ce qui résume tout, c'est ça. C'est des armes en plein milieu d'un génocide. Des armes dans une situation humanitaire hyper compliquée, dans laquelle beaucoup de problèmes viennent déjà du fait que les gens sont déjà armés dans un camp du HCR. C'est quand même très instable, quoi. Donc, rajouter de l'instabilité là-dedans, on est déjà 2 mois après la prise de Kigali par le FPR. Donc, c'est assez curieux d'imaginer que cette armée est totalement en déroute, par la magie de quelques livraisons, va se réorganiser. Mais visiblement, il y a des gens qui le pensent.
Alors, curieux, comme vous dites, oui, assez incroyable d'ailleurs ce que raconte ce monsieur. Mais les militaires français, Benoît, ils sont au courant de tout ça ou pas?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, l'aéroport de Goma est sous le contrôle des Français. Nous avons posé la question à l'ancien chef d'état-major des armées, à l'époque, l'amiral Jacques Langsade. Lui explique qu'il n'a jamais entendu parler de telles livraisons.
On peut raconter tout ce qu'on veut, ces livraisons d'armes. Il y a des soi-disant emballages, je n'en sais rien. En tout cas, vu par le chef d'état-major français de l'époque, il ne s'est rien passé, en tout cas sous l'autorité du chef d'état-major.
Donc il y avait des armes qui pouvaient passer sans que vous ne les voyiez?
C'est vous qui dites qu'il est passé des armes, je n'en sais rien.
Non mais vous n'en savez rien, mais donc c'était matériellement possible?
Ça ne me paraît pas matériellement impossible. Il y a peut-être des armes qui sont passées, mais je peux vous dire que les forces armées françaises n'ont rien à voir avec ça.
Donc l'armée française, Benoît, n'a rien à voir avec ça, c'est ce que dit l'amiral Langsade. Qu'est-ce qu'il en dit, le témoin que vous avez rencontré là-dessus?
Pour Valfroy Dauchy, ça lui paraît difficile qu'il n'y ait pas eu un feu vert pour livrer ses armes.
Sur la base, c'était pas un secret. De toute façon, les avions militaires français sont forcément déchargés par des militaires français.
Donc selon vous, les militaires français ne pouvaient pas l'ignorer? C'est pas un secret.
Alors, les militaires français, je sais pas ce que vous voulez dire. Il faut dire
le commandement présent.
Le commandement ne peut pas l'ignorer. Pour autant, ça veut pas dire que c'est lui qui l'organise, mais il est obligé au moins d'être informé et de le laisser passer. À tout le moins. D'autant plus si ça transite sur un avion français, évidemment. L'idée générale qu'on livrait des armes aux Hutus dans les camps était une idée qui était relativement connue et pas discutée. Que l'amiral Langsade personnellement ne soit pas personnellement informé de ces livraisons, c'est tout à fait possible. Que l'armée française en général, que des officiers aient donné le feu vert à ces livraisons, c'est obligatoire. Qu'on soit bien clair, il n'y avait pas besoin que l'amiral Langsat soit au courant pour trimballer une vingtaine de caisses de Kalachnikov de Bangui à Goma. Ça peut se faire à un niveau assez subalterne, mais ça ne peut pas se faire sans turquoise. Ça ne peut pas se faire sans que quelqu'un l'ait validé à un moment. Ça, alors pour le coup, il faut être très clair, si Turquoise avait voulu empêcher ça, ça leur aurait pris 5 minutes. S'ils avaient voulu que ça se produise pas, c'était très très simple.
Mais donc Benoît, laissez-moi comprendre, sur le fond, sur le rôle joué par la France à l'époque, que répondent les politiques et les militaires en fait ?
Alors la réponse, c'est de dire que la France s'est engagée au Rwanda pour empêcher que la situation ne dégénère. Le soutien au président Habyarimana a été un soutien conditionné à un processus politique, ce qu'on appelle les accords d'Arusha, qui prévoyait un partage du pouvoir avec le FPR, sauf que le 6 avril 94, l'avion du président rwandais est abattu et le génocide commence. Un génocide que l'amiral Langsat dit n'avoir jamais vu dans ses radars.
Il n'y a pas eu d'aveuglement. Je pense qu'on a été tout le temps conscient de ce qui pouvait se passer et que justement, c'est pour cela qu'on était là. On n'a jamais parlé de génocide. Jamais. On n'a jamais pensé. Le génocide, c'est une notion qui est apparue après. Alors qu'il y a des gens qui parlent de génocide et qui disent aujourd'hui « Ah, mais j'avais pensé à ça ». Bon, je veux bien, mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, on ne parlait absolument pas de génocide. On craignait une guerre civile avec les massacres qui accompagnent une guerre civile. Et c'est ça qu'on a voulu éviter.
Le fait que des extrémistes hutus préparent un génocide, ça n'était pas un point central.
Encore une fois, ce que nous redoutions, c'est la guerre civile. Et ce que nous avons voulu empêcher, c'est la guerre civile.
Pas le génocide.
Mais pas le génocide, parce qu'on ne parlait de personne, ne parlait de génocide. Aujourd'hui, tout le monde parle de génocide parce qu'il est arrivé. Enfin, à l'époque, qui parlait de génocide ? Personne. Rappelez-vous qu'on a commencé à parler de génocide plusieurs jours après le début du génocide. C'est l'histoire. C'est malheureusement l'histoire. Si nous n'étions pas intervenus, le génocide serait intervenu beaucoup plus tôt, c'est tout.
Benoît, donc une dernière chose, à l'époque on ne parlait pas de génocide, fermez les guillemets, c'est ce que dit l'amiral Langsat, est-ce que c'est vrai ?
Non, c'est aujourd'hui que des alertes sont remontées par de multiples canaux jusqu'au sommet de l'État. Dès 90, l'attaché de défense ou l'ambassadeur au Rwanda évoque un risque d'élimination totale des Tutsis. Il y a des notes, beaucoup de notes de la DGSE, les services secrets français, qui alertent sur ce risque génocidaire. Il y a aussi le travail des associations, des ONG, comme la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, qui en 93, un an avant le génocide, publie un rapport très clair sur le sujet. Et puis des témoignages donc comme celui du général Varé. Avec le recul, le militaire estime qu'il a eu de la chance de devoir quitter son poste à l'époque.
J'aurais eu ma part de responsabilité au moment du génocide. Donc je suis parti et avec du recul, je me dis heureusement que je suis parti.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, certains responsables français, civils et ou militaires, ont une responsabilité ?
Si toute la lumière se fait là-dessus, je pense que oui, il y a eu quand même un aveuglement. C'est-à-dire qu'aucun civil ou militaire n'aurait souhaité le génocide, aucun. Par contre, certains n'ont pas pris le risque au sérieux, alors qu'il y avait quand même des sonnettes qui sonnaient. Il y avait des informateurs dont j'étais, mais il y en avait d'autres.
Pour vous, il s'agit d'une erreur, d'une faute ?
Eh bien, malheureusement, l'histoire a prouvé que c'était une faute. Plus qu'une erreur, puisque ça a débouché sur un génocide.
Voilà, Benoît. On peut lire votre enquête sur franceinter.fr pour se remettre tout ça en tête, sur Mediapart également. C'est une coproduction, et puis tiens, on le rappelle, Secret d'Info. Benoît, c'est après-demain, samedi, à 13h20. Merci beaucoup de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Ensuite, ça se passe entre la Syrie et la Jordanie avec les tout premiers petits retours de Syriens qui étaient dans les camps jordaniens sous les radars avec notamment la musique du Brexit. Pierre Benazé qui nous raconte l'Europe par le petit bout de la lorgnette dans un instant. Vous verrez ça. Et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors les jeunes font la pluie et le beau temps pour le climat et ça marche.
Et s'ils étaient en train de ringardiser toutes les formes classiques de mobilisation politique ?
On voit ça dans un instant. À tout à l'heure. Le tour de la planète n'est pas fini. Il commence à peine. Voici Sergio Mendes, Masquerada.
Like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through off and Bobby Bobby being the R and the bank, we got, tab magnification, tab magnified like every day,
so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it.
Sur France Inter, Mas Canada, donc plus que rien, c'est mieux que moins que rien. Allez, non ?
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Ben quoi ?
Je sais pas si
allez,
j'ai compris.
Oui, sur les radars et Amélie Perrier, taisez-vous, Amélie. Enfin non, pas trop quand même.
Quand
allez.
Même.
On part pour certains pays d'Afrique où les pluies font des ravages.
Au Malawi et au Mozambique, dans le sud-est de l'Afrique. Car ces terres ne sont pas seulement mises à rude épreuve par de longues périodes de sécheresse et les grosses chaleurs. Pendant la saison des pluies, comme vous l'entendez là, elles sont parfois noyées.
Daniel, hein ?
Alors ici c'est dans le très joli film sur Netflix en ce moment, le garçon qui dompta le vent avec la française Aïssa Maïga, elle joue en Tchitchewa, hein, la langue du Malawi. L'histoire d'une famille qui tente de cultiver ses terres mais qui se retrouve démunie quand les pluies trop fortes inondent les parcelles et ensuite la sécheresse finit de les conduire tout droit vers la famine. Histoire vraie d'un petit garçon qui invente une éolienne et sauve sa famille. Bon, là ça se termine bien, sauf qu'aujourd'hui, eh bien le Malawi et le Mozambique voisins vivent le pire pour de vrai. Les pluies torrentielles des derniers jours ont fait plus d'une centaine de morts, plus de 800 000 sinistrés dans les deux pays et surtout donc des champs inondés dans ces pays déjà très vulnérables, très pauvres. Le cyclone Idai n'en a pas fini encore. Il menace maintenant les côtes du Mozambique et le pays vient de suspendre la plupart des vols intérieurs.
Amélie, on revient en Europe où le passé colonial africain laisse des traces de plus en plus gênantes.
Oui, c'est la tradition des noirots en Belgique. À Bruxelles, des hommes dans un costume censé représenter un notable africain, le visage grimé en noir, déambule dans la capitale pendant le carnaval. Accompagné d'une fanfare, le but est de recueillir de l'argent dans les restaurants pour l'enfance défavorisée. Noble cause, mais le maquillage noir faisait polémique ces dernières années dans l'ancienne puissance coloniale du Congo, du Rwanda et du Burundi. Les opposants l'ont comparé au blackface américain, vous savez, cette pratique raciste. Alors, cette année, les noirots ont adopté un nouveau grimage noir, jaune, rouge, les couleurs du drapeau belge.
Le maquillage change, effectivement. Pour des raisons que la presse connaît bien, puisqu'il y a eu, disons, un souci généralisé pour tous ceux qui portent la couleur noire. Or, nous, notre objectif, c'est les enfants. Aider les enfants en Belgique de 0 à 14 ans.
Alors voilà, la bonne cause est sauvée. Hein. Les noirots défileront de nouveau samedi. Et le mannequin Peace, lui aussi vêtu d'un costume de noirot dans la tradition, se mettra lui aussi donc aux couleurs du pays.
Voilà, c'est mieux. En Australie, c'est une victoire rare pour les aborigènes contre les pouvoirs publics.
La haute cour d'Australie vient de juger que les aborigènes avaient été spoliés de leurs terres et qu'ils devaient être indemnisés, en particulier pour la perte culturelle et la souffrance spirituelle endurée. Alors l'équivalent de près de 800 000 euros pour les peuples Ngaliwuru et Nungali vont être versés. Car écoutez cet aborigène en septembre dernier devant la cour, Chris Griffiths. Il parle des Australiens qui sont venus construire sur les terres de ses ancêtres. Il ne savait pas, dit-il, à cette époque, qu'il ne venait pas parler à mon peuple. Il ne savait pas que nous pratiquions nos cultes, que nous tentions de maintenir les valeurs de notre culture là, sur ces terres. Et cela pourrait faire jurisprudence auprès de tous les autres peuples indigènes. Des experts parlent de milliards de dollars de compensation à verser par l'État. Quand les colons britanniques sont arrivés au XVIIIe siècle en Australie, les aborigènes étaient estimés à 1 million. Il ne serait plus que 700 000 environ. Aujourd'hui, il reste la part de la population la plus défavorisée.
Un mot rapide pour terminer sur le Brexit.
Oui, car on vous en parle dans les journaux, évidemment. Mais là, le Guardian lance un appel plutôt sympathique à ses lecteurs. Quel morceau serait la parfaite bande-son du climat politique actuel? Et le journal lance le jeu. Voici quand même, le Guardian a choisi What's Going On, Marvin Gaye, que se passe-t-il maintenant?
Bah oui.
Un petit peu de douceur dans cette tempête. Non, vous n'auriez pas choisi ça.
J'aurais choisi les Clash, tiens. Should I stay or should I go?
Enfin, ouais, un peu base. D'accord.
Ou peut-être Strawberry Fields Forever des Beatles, parce que à ce stade, c'est bien de voilà, ouais, prendre un peu de substance interdite.
Et de hauteur.
Pour essayer d'y voir clair. Et de hauteur. Allez, Amélie Perrier, revenez demain.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et chiche qu'on rentre. Chiche qu'on rentre quand on est syrien, réfugié en Jordanie. Alors vous allez me dire, c'est fou quand on... Mais on voit quand même, hein, timide, très timide, retour vers la Syrie de certains réfugiés. On va rappeler quelques chiffres. Ils sont presque 6 millions, les réfugiés syriens dans le monde, 670 000 en Jordanie. Et la frontière de Jaber avec la Syrie a été rouverte. C'était à la mi-octobre. Depuis, le commerce a repris et quelques milliers de réfugiés sont retournés dans leur pays. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, quelques retours, alors que les signes de normalisation sont encore très, très mesurés. On vous écoute, Étienne, sur cette frontière de Jaber.
Ce qui saute aux yeux dans le grand hall du poste frontière jordanien, c'est que ce point de passage ne ressemble pas à un corridor du retour, mais plutôt à une autoroute commerciale qui retrouverait son activité. On voit beaucoup de Jordaniens, quelques Syriens et quelques femmes entourées d'enfants. Elles sont l'indicateur d'un frémissement dans les retours. Zahié fait partie des précurseurs. Elle est originaire de Deir ez-Zor. Elle retourne dans son pays après 3 ans et demi d'exil en Jordanie. La guerre a éparpillé sa famille. Elle vient pour tenter de recoller les morceaux.
Plusieurs maisons ont été détruites, mais ils sont en train de les réparer. J'ai un petit garçon et une fille que j'ai laissés derrière moi en Syrie parce qu'ils ne pouvaient pas venir avec moi. Je rentre à cause d'eux. Je veux pouvoir les voir et les aider.
Les formalités sont rapides, le passage se fait en voiture ou en bus. Il faut à peine une demi-heure pour rejoindre la ville de Deraa. Pour ceux qui rentrent, il y a un mélange d'émotions et d'appréhension. Anissa Chibli profite de la réouverture pour visiter sa famille. Elle s'est installée en Jordanie il y a 6 ans. Depuis, elle vit séparée de ses racines qu'elle compte retrouver à Damas malgré les appels à la prudence.
Je suis tellement heureuse, mais j'ai un peu peur. Peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Ma famille a tellement peur, ils m'ont demandé de ne pas venir. Mais j'ai insisté. J'ai tellement envie de voir ma famille, ma maison, mes frères. Donc j'ai poussé pour venir.
D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, seulement 12 000 Syriens ont passé la frontière jordanienne en 5 mois, majoritairement originaires de Damas, de Homs et de Deraa. L'activité économique s'est d'abord engouffrée et plus rapidement dans cette ouverture. Odeid Abazid conduit une voiture lestée de plus de 300 kilos de tomates. Il est Syrien, avant la guerre il était agriculteur. Cette frontière lui offre un nouveau débouché.
On peut dire que je suis devenu un businessman. Avec les voitures, on fait des allers-retours et on transporte des gens et des produits. On fait entrer des pommes de terre et des citrons depuis la Syrie et sur le chemin du retour, on rapporte des tomates ou des passagers et on les ramène en Syrie.
Pour la région, le commerce retrouvé avec la Syrie est une bouffée d'oxygène. Rachid Hassan Wardan était diplômé sans travail il y a plus de 4 mois. Il fait maintenant partie des très nombreux taxis multiservices qui font la navette entre les deux pays.
Ça a amélioré le commerce sur le marché de la ville de Hamza, à côté de la frontière. Les gens ont arrêté de se plaindre de la situation maintenant. Les produits sont meilleurs, donc les gens viennent pour les acheter. Il y a plus d'argent, donc il y a plus d'échanges. Économiquement, c'est bien. Ça a vraiment amélioré la vie des gens.
Pour le régime syrien, la réouverture de la frontière est un symbole de la normalisation. Pour les réfugiés, c'est encore très nuancé. Derrière la caisse, dans un kebab à 30 minutes de route de la frontière, Mohamed, 25 ans, n'envisage pas un retour sans garantie sécuritaire.
Je ne peux pas rentrer, sinon je vais être incorporé de force dans l'armée, parce qu'on est obligé de faire l'armée. Pour rentrer, il faudrait une solution politique et une protection pour tous, parce qu'on est nombreux à avoir fui la conscription. Certains hommes rentrent, mais ils doivent payer 10 000 dollars aux militaires. Avec le régime, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. C'est impossible. Il a tué tellement de familles. C'est impossible d'imaginer une réconciliation.
Le Haut Commissariat aux réfugiés estime que 250 000 personnes pourraient rentrer cette année, mais la décision reste compliquée à prendre, dit Roula Amin, porte-parole du HCR en Jordanie.
Une majorité de réfugiés voudraient éventuellement rentrer dans leur pays maintenant. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Ça dépend de ce qui se passe dans leur village, dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de subsistance? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Est-ce que leurs enfants auront accès à l'éducation? Est-ce qu'ils auront une maison, un abri? Il y a beaucoup de considérations. Les réfugiés qui sont déjà rentrés fonctionnent comme des satellites qui renvoient de l'information. Vous savez, ils appellent et ils disent « C'est ok, on a trouvé une maison, on l'a réparée ». J'ai trouvé du travail. Ou bien ils appellent en disant « C'est terrible, ne rentre pas ». On a vu beaucoup de familles qui sont divisées sur ce choix. Vous pouvez trouver une sœur et son mari qui veulent rentrer et une autre sœur qui ne veut pas du tout.
Malgré l'arrêt des combats dans la plupart des zones du régime en Syrie, le nombre de Syriens rentrés l'an passé est limité. L'ONU en comptabilise 56 000 sur 5,5 millions de personnes disséminées dans le monde.
Étienne Monin, à la frontière de Jaber en Jordanie. Merci beaucoup Étienne. On peut aller lire votre travail sur franceinter.fr et vos photos décrivent très bien ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, comme tous les jeudis, grâce à Pierre Benazet ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabien.
Pierre, cette semaine en Europe, c'est le président du Parlement européen, l'italien Antonio Tajani, qui a réussi à se mettre lui-même et tout seul d'ailleurs en difficulté. Il est attaqué à nouveau pour des propos qui font sévèrement polémique. Il a fait une sorte d'apologie de Benito Mussolini.
Oui, Antonio Tajani était mardi sur Radio 24 en Italie. Il y avait une discussion à bâton rompu sur la présence de l'extrême droite dans la coalition actuellement au pouvoir. Mais subitement, le président du Parlement européen a dû répondre à une comparaison avec la période fasciste et il a donné de l'action de Benito Mussolini une vision plutôt favorable. Je vous propose d'écouter justement Antonio Tajani.
D'un point de vue factuel, des choses concrètes réalisées, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des routes, des ponts, des bâtiments, des installations sportives et il a fait améliorer des régions de notre Italie. Un juge de l'histoire doit être honnête. Je ne peux que désapprouver les lois raciales qui sont une folie, la déclaration de guerre qui était un suicide, et ce n'était certainement pas un champion de la démocratie. Pourtant, des choses ont été faites. Il faut toujours dire la vérité, et c'est la vérité.
Voilà, donc on imagine que ces propos sur Mussolini sont mal passés au Parlement européen, Pierre.
Oui, très mal passés chez les socialistes, les libéraux, les écologistes. La présidente des Verts rappelle que Benito Mussolini n'a pas fait que construire des routes, mais qu'il a aussi dissous le Parlement, établi une dictature, aboli le droit de grève et la liberté de la presse. Et on a assisté à un déchaînement véritable de députés européens sur les réseaux sociaux. Du coup, après avoir crié à la déformation de ses propos, Antonio Tajani a fini par s'excuser cet après-midi en se déclarant antifasciste, convaincu, en disant qu'il n'avait pas voulu minimiser les actes d'un régime antidémocratique et totalitaire.
Donc, dont acte, mais c'est pas certain que la polémique retombe tout de suite pour autant, parce que c'est pas la première fois qu'il dérape verbalement.
Non, et la dernière fois, c'était début février, Antonio Tajani était près de Trieste, il avait comparé l'exécution des Italiens fascistes ou collaborateurs par les partisans de Tito à la fin de la guerre à une forme de nettoyage ethnique, et il avait fini son discours en lançant « Vive l'Istrie italienne, vive la Dalmatie italienne », deux régions qui sont aujourd'hui en Slovénie, en Croatie. Vous imaginez bien bien que ça n'a pas beaucoup plu à ces deux gouvernements qui ont envoyé des lettres de protestation officielles. Mais on se dit ici qu'à l'approche des élections européennes, Antonio Tajani se remet peut-être pas si involontairement que ça sur une ligne plus proche de celle du fondateur du parti, Silvio Berlusconi, pour ramener vers Forza Italia les voix de ceux qui ont été séduits par l'extrême droite lors des dernières élections.
Pierre, on va rester en Croatie, tiens, justement, vous l'évoquiez, mais sur complètement autre chose, on apprend aujourd'hui que les habitants de Zagreb font partie de ceux qui utilisent le plus d'amphétamines, et on le comprend comment ? En regardant les égouts.
Oui, et c'est surtout alors le vendredi et le dimanche que les Zagrébois consomment de l'amphétamine, même s'ils sont dépassés par les habitants de Reykjavik. Les méthamphétamines, elles, sont quasiment uniquement consommées en Europe centrale. Pour la cocaïne, c'est à Bristol qu'on en consomme le plus. Et pour l'ecstasy, c'est Amsterdam qui est championne hors catégorie, loin devant la première dauphine, Zurich. Et vous avez raison, on l'apprend par les égouts. C'est une nouvelle discipline scientifique sur laquelle s'est basé le rapport de l'Agence européenne de surveillance des drogues, ça existe, à savoir l'analyse des eaux usées. 17 villes ont été soumises, on a même la variation selon le jour de la semaine, et c'est comme ça qu'on sait que l'amphétamine a été utilisée comme drogue, puisque un peu partout, on la retrouve surtout le week-end.
Allez, juste une dernière chose avant de se quitter, Pierre, on se quitte avec Donald Tusk, le président du Conseil européen, c'est celui qui a récemment parlé d'une place spéciale en enfer pour ceux qui ont poussé vers le Brexit. Tous les Anglais ne lui en veulent pas, il a reçu un beau dessin.
Oui, je vous ai dessiné une licorne, écrit Sophie, une londonienne de 6 ans qui craint peut-être que Donald Tusk ne comprenne pas son dessin. Je sais que nous allons quitter l'Europe, mais je pense que nous devrions être amis, écrit-elle. Et Donald Tusk lui répond, nous serons toujours amis. Et il termine avec un petit cœur du même rouge que les gommettes collées par Sophie sur sa lettre. Enfin, une bonne nouvelle dans le dossier du Brexit.
Allez, s'il te plaît, dessine-moi une licorne, Pierre Benazé, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, dépôt de plainte contre la France aujourd'hui, grève dans les établissements scolaires demain, manifestation après-demain. La mobilisation sur le climat semble s'accroître et les jeunes lycéens en particulier y prennent une part importante, on le sait. Alors on pourrait dire mais on aurait tort, c'est votre monde à l'envers.
Oui, d'abord on se dit tout ça c'est sympathique, ça va pas casser trois pattes à un canard. D'ailleurs en France, la mobilisation des collégiens et lycéens est restée marginale jusqu'à présent, très en deçà de ce qui se passe en Suède ou en Belgique. Et puis les mobilisations de jeunes sont assez souvent des feux de paille peu structurés qui relèvent en partie de l'activité, on va dire, ludique. Chic, une bonne raison pour parler en cours. On peut ajouter d'autres motifs qui rendent dubitatif et qui poussent à la prudence. Les mouvements lycéens sont régulièrement instrumentalisés par des groupuscules politiques. Et dans le cas d'espèce, une grève pour dénoncer l'inaction climatique, il y a un petit côté bobo politiquement correct qui peut irriter. Pour toutes ces raisons, la tentation est grande chez les adultes en général, chez les dirigeants politiques en particulier, de regarder cette mobilisation avec bienveillance, mais surtout avec condescendance sur le mode « de toute façon, ça conduira nulle part ». Et on en voudra alors pour preuve l'autre exemple comparable, c'est-à-dire la mobilisation contre les armes des lycéens américains l'an dernier après la tuerie de Parkland. Résultat, on le sait, un an après, rien ou presque n'a changé sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Sauf que dans cette histoire de climat, il y a quand même des paramètres un peu nouveaux et différents qui mettent la puce à l'oreille.
Et c'est le sujet lui-même en fait.
Oui, ça c'est la première particularité. Il faut s'arrêter là-dessus un instant. Le plus souvent, les mobilisations de jeunes se font sur des sujets qui les concernent directement, personnellement. Une réforme du lycée, de l'université, les tueries dans les établissements scolaires aux États-Unis, voire la guerre qui menace d'emporter vos proches. On se souvient des mobilisations contre le Vietnam. Cette fois, c'est presque l'inverse. C'est une mobilisation sur le sujet universel et international par excellence, la de la planète, on est à l'opposé des querelles de clochers nationalistes qui agitent souvent les adultes. C'est à l'évidence une réponse face à l'inaction des gouvernants flagrante lors de la dernière COP24, alors que la banquise fond, que la température augmente, etc. Et face à cet enjeu universel, la mobilisation, c'est cohérent, adopte une réponse internationale. Ça aussi, c'est nouveau pour un mouvement de jeunes, le même mot d'ordre partout. En l'occurrence, tout est donc parti de Suède puis de Belgique, mais le mouvement fait tache d'huile. Demain, plus de 1650 villes seront concernées dans le monde par ces grèves scolaires dans plus de 105 pays, dont certains inattendus, le Bangladesh, l'Iran, l'Ouganda. Évidemment, ça sera parfois totalement microscopique et ça peut s'étioler aussi vite que c'est apparu, mais ça peut aussi grossir.
Alors, à part le sujet lui-même, donc le climat, Jean-Marc, c'est quoi les paramètres nouveaux ?
Alors, sur la forme, cette mobilisation présente au moins trois particularités. La première, c'est le rôle moteur des femmes, des jeunes femmes, Greta Thunberg en Suède, Anna de Wever en Belgique, Jamie Margolin aux États-Unis, 16, 17 ans, que des filles dont personne ne conteste la légitimité. Quel contraste quand même avec les dirigeants politiques de ce monde en moyenne, le mâle blanc de 40 à 70 ans. Deuxième particularité, la mobilisation se fait en dehors des structures politiques traditionnelles. Les partis écologistes classiques eux-mêmes sont largués. Les jeunes se structurent via les réseaux sociaux. Ils multiplient les vidéos, par exemple sur le site Fridays for Future. Et là, on est proche de la logique des gilets jaunes dans la quête d'une forme de démocratie directe. Enfin, troisième spécificité, les mobilisations sont, pour l'instant en tout cas, aussi déterminées que calmes et pacifiques. Aucune dérive violente à ce jour. Là encore, effet de contraste avec d'autres mobilisations. Suivez mon regard. Donc, on peut penser ce qu'on veut de cette mobilisation de jeunes, la soutenir ou au contraire la trouver naïve, béni oui, mais par son mode de fonctionnement, ses moteurs, elle est révélatrice de nouvelles formes d'investissement politique et c'est pour cette raison qu'il faut la prendre au sérieux, c'est ce qui la rend aussi imprévisible.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers. Jean-Marc, merci beaucoup.